Good afternoon.
Bonjour. Je suis enchantée de vous présenter Dean Delmastro, secrétaire parlementaire pour le ministre du Patrimoine Canada, et qui va vous faire certaines présentations. Avant de donner la parole à M. Delmastro, je vais me présenter et ensuite décrire comment on va procéder. Je m'appelle Nicole Frenette. Je vais animer cette séance. Et je suis directrice de la Direction générale des politiques du marché, et ça c'est au patrimoine canadien, et nous sommes responsables pour conseiller le ministre du patrimoine canadien sur le cadre de la politique du droit d'auteur. Vous êtes plusieurs ici à partager vos opinions sur la réforme du droit d'auteur, et nous avons hâte d'écouter chaque de vous. Nous utilisons également les services de traduction et de microphone pour enregistrer les discussions de cet après-midi. Tel que nous avons indiqué dans l'invitation que vous avez reçue, cette discussion sera affichée dans les deux langues officielles sur le site web de la consultation sur le droit d'auteur en fichier audio et en transcription écrite. Les photos prises cet après-midi pourront également être affichées sur le site web. Nous avons les interprètes à votre disposition, donc n'hésitez pas à participer dans la langue de votre choix. Donc, je vais répéter ça, mais afin de faciliter une traduction de haute qualité, nous vous demandons de parler clairement et lentement. Nous vous demandons aussi de vous présenter en citant votre nom et celui de votre organisation avant de prendre la parole. Nous souhaitons que la discussion d'aujourd'hui soit le plus fluide possible, étant donné qu'elle a pour but de sonder vos opinions sur la réforme du droit d'auteur. Afin de s'assurer que cette journée soit productive et parce que nous voulons vous donner la parole à chacun, je vous demande de faire des interventions de 5 minutes axées sur les questions qui vous sont importantes. Notre table va durer environ 90 minutes. Et il se peut que j'intervienne pour vous demander de conclure vos interventions de façon à ce que tout le monde ait l'occasion de partager leur point de vue. Maintenant, je vous invite à vous présenter à tour de rôle et que vous puissiez vous présenter et votre organisation. Et M. Delmastro, ensuite, va prendre la parole. Je m'appelle Craig McTaggart, TELUS. Chris Tabor, directeur de la librairie à l'Université Queen's, et je représente les librairies des campus du Canada. Micro, s'il vous plaît. Je suis président de Finkelstein Management et je représente Music Managers Forum du Canada. Christian Clark, directeur exécutif du Front des artistes canadiens, CARFAC. Je travaille pour le bureau ontarien, mais je représente l'organisation nationale. Je m'appelle Jason Bird. Je travaille pour le conseil de district de Kawartha. Victoria Owen, bibliothécaire principale du campus de Scarborough à l'Université de Toronto, et je représente l'association des bibliothécaires. Robert Labossière, directeur exécutif de l'Organisation des directeurs de musées d'art au Canada. Howard Knopf, avocat en droit d'auteur d'Ottawa. Chris Peng, je représente CanWest Broadcasting. Stuart Watke, l'Assemblée des Premières Nations.
And a small businessman. I represent CAPIC, which is the Canadian.
Je représente CAPIC, l'association canadienne des photographes et illustrateurs, et je représente la coalition canadienne des photographes. Elliot Noss de Two Cows et Susan Withers de Rogers Media. Je me suis présentée. Je pense à presque tout le monde. Bienvenue à Peterborough. Nous avons organisé cette consultation parce que on veut consulter à travers le pays au sujet des droits d'auteur. C'est quelque chose de très important pour tout le monde, que ce soit les créateurs ou les autres. Et on est ici pour vous écouter, pour trouver un terrain commun, et on aimerait avoir un projet de loi qui va plaire à tout le monde. Donc, on recherche un compromis et des points semblables. Et comme Monsieur Clement a dit, on va consulter à la base pour trouver des solutions à la base. Et on aimerait aussi entendre vos commentaires en réaction aux autres présentations. Et je pense que c'est comme ça qu'on trouve des thèmes communs. On commence avec des points où on est d'accord. Ensuite, on passe à d'autres points où on est moins d'accord en essayant de trouver des compromis. Donc, j'attends avec intérêt ce que vous avez à nous dire. Monsieur McTaggart de TELUS. Je suis directeur de la politique de la banque large. Et nous sommes heureux de pouvoir être ici. On félicite les ministres à s'être engagés pour ces consultations. Nous faisons partie d'une organisation BCBC, une coalition, et nous avons présenté nos points de vue à la table ronde de Gatineau. Mais j'aimerais vous parler de ce qui nous touche en tant que fournisseur de communication sans fil au Canada. Il semble y avoir un certain consensus sur deux choses. Tout d'abord, les droits de l'usage privé. C'est important que nos clients puissent utiliser des copies de produits acquéris de façon légitime, que ce soit des téléchargements ou autres. Et donc, ça, c'est l'approche de notre coalition où on parle d'une approche équitable ou une approche de plateforme. Ce sont des pratiques déjà très courantes chez les consommateurs et ça devrait être reconnu. Mais quand je parle d'être acquéri de façon légitime, c'est très important. Je vais en parler plus tard que TELUS et d'autres transporteurs collaborent dans les détenteurs de droits pour protéger leurs droits. Et nous sommes d'accord quand il y a des sanctions très fortes pour la contrefaçon. Et les services MPVR vont être la prochaine étape pour l'enregistrement à la maison en suivant PVR. Donc, des produits maintenant très courants. Mais avec MPVR, la différence, c'est où se trouvent les dispositifs d'entreposage. C'est chez le transporteur plutôt que chez vous. Le projet de loi 61, à notre étonnement et à notre regret, aurait interdit ces services MPVR en disant que c'était pas équitable, même si c'est dans l'intérêt des détenteurs de droits et des consommateurs. Alors, on ne sait pas pourquoi les Canadiens n'auraient pas droit à cette solution équitable. Et ça a été deux fois confirmé comme étant un procédé légitime aux États-Unis. Basé sur ce que j'ai lu jusqu'à date, personne n'a vraiment parlé de cette interdiction du MPVR dans le projet de loi 61. Donc, j'espère qu'on pourra aussi en parler et j'espère que la question de vidéocassette sera aussi traitée. Mais il y a aussi la réponse graduée, autre sujet. Quand avec le partage de fichiers pair à pair, il n'y a rien à télécharger parce qu'il n'y a pas de serveur où se trouvent les fichiers. Plusieurs FSI ont commencé à travailler avec l'industrie des films et du logiciel pour développer un service d'avis et de retrait qu'on a développé depuis longtemps. Et il y a certains qui ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention d'appliquer ça en droit, mais ils veulent télécharger la responsabilité au FSI avec un système de réponse gradué. Les FSI interromperaient le service seulement quand il y a des allégués de contrefaçon. Et c'est ça, donc, léserait tous les gens qui auraient accès là. On sait que c'est pas une politique à conseiller et les FSI ne peuvent pas être mis en position pour décider si une loi a été violée ou non. Peut-être qu'un tiers, comme le CRTC, pourrait être l'arbitre, mais toute politique serait vulnérable en vertu de la loi sur la Constitution et sur les droits de la personne. Au Canada, les FSI collaborent avec les détenteurs de droits en vertu de la loi sur les télécommunications. Il y a une limite de ce que les FSI peuvent faire d'après la loi sans autorisation du CRTC. Dernière chose, à notre avis, ce ne serait pas acceptable de prolonger cette interdiction aux produits électroniques privés, surtout avec les téléphones intelligents, netbooks, les ordinateurs portatifs, etc. Il y a de plus en plus de la mémoire pour des fichiers médiatiques et ça pourrait être une plateforme pour la prestation sécuritaire de services. Et mettre une interdiction pour ces dispositifs, ça découragerait l'innovation et les dispositifs innovateurs deviendraient trop chers. Une taxe régressive ne serait pas bienvenue parce que nous sommes en train de présenter ou lancer des réseaux et donc ce serait très difficile de distribuer ces produits. Donc TELUS va continuer à être impliqué et à vouloir être consulté dans ce processus. Merci. Je suis Chris Tabor, directeur de la librairie à l'Université Queen's et je représente les librairies des universités et des collèges communautaires. Campus Stores Canada a une centaine de librairies et on dessert plus de 1 million d'étudiants au postsecondaire. Merci pour l'invitation. Je pense qu'une mise à jour de la loi sur les droits d'auteur aura un impact sur les étudiants et bien d'autres personnes. Ça pourrait vous intéresser de savoir qu'en 2009, le gouvernement américain dans 23 États a délibéré sur ses droits d'auteur et je serais très heureux de parler de l'impact d'une telle loi sur tout le matériel d'apprentissage. Donc, il faudra parler de plusieurs sujets. Tout d'abord, l'importation parallèle de livres. Les distributeurs peuvent maintenant établir des monopoles pour l'importation de livres. Et donc, ces monopoles peuvent décider quels seront les prix pour ces livres. Donc, les autres qui ne sont pas les distributeurs sont des importateurs parallèles. Avec le nouveau projet de loi, ces intervenants parallèles seraient en violation. Donc, l'éditeur peut faire payer à la librairie les frais, plus un 10% si ça vient des États-Unis ou 15% de plus si ça vient du Royaume-Uni. Nous pensons que c'est un tarif privé établi par politique publique et devrait ne pas exister. C'est les familles, les élèves, les étudiants qui payent pour ça et c'est des intérêts étrangers qui recueillent cet argent. Et donc, 10 à 15% est un bénéfice net et on risque de perdre ces ventes aux importateurs en parallèle. C'est important de comprendre que le rendement, il n'y a pas vraiment un avantage pour l'artiste ou les auteurs de ces créations. Et ce tarif n'est pas versé au gouvernement fédéral. En ce qui concerne le traitement équitable, ça permet des copies pour des fins éducatives et pour les élèves au postsecondaire, ils peuvent s'en servir pour la recherche et leurs études. Ça, c'est un droit universitaire important et c'est une restriction limiterait les élèves ou les étudiants à faire cette recherche critique. Depuis une décennie, on a vu toutes sortes d'avances ou d'améliorations dans les bibliothèques numériques et ça a beaucoup élargi donc ce que détiennent les bibliothèques. La réussite de ces technologies, c'est parce que c'est facile d'accès pour des matériels difficiles à accéder normalement. Mais maintenant, il y a des dispositions proposées qui remplaceraient cette simplicité avec une complexité, une incertitude. Campus Stores Canada est d'avis que le traitement équitable est utile et c'est important pour les étudiants et tout ça en ne voulant pas violer les droits d'auteur. Si c'est plus acceptable, les élèves ou les étudiants comprendront plus que ce serait une violation et seraient limités dans leur recherche. Beaucoup a changé dans la distribution du matériel des cours depuis 10 ans, depuis la dernière mise à jour. Et un changement à la loi doit s'adapter à ces nouvelles technologies. Campus Stores Canada croit qu'il faut qu'on respecte les principes de ce traitement équitable. Tout ça pour protéger les Canadiens contre une loi plus contraignante et des normes plus contraignantes. Et maintenant, les droits d'auteur de la Couronne. Campus Canada est d'avis que les œuvres publiées par le gouvernement canadien appartiennent aux Canadiens. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je serai heureux de participer à la discussion.
Graham Stairs, vice-président de Finkelstein Management, et je représente le Music Managers Forum Canada. C'est une organisation qui a été créée il y a 12 ans. J'étais un des fondateurs. Nous avons plus de gérants d'artistes et nous représentons plus de 250 artistes. Des artistes tels que Bruce Coburn, Rush et Tragically Hip, Blue Rodeo, Great Big Sea, Simple Plan, Our Lady Peace, 5440 et d'autres. Et nous représentons des artistes de tout genre musical. Le traité de Lompi a été adopté en 96 plutôt, et on pense que c'est quelque chose qui est l'évidence même. La survie, la croissance de l'industrie de musique au Canada nécessite une loi et aussi un modèle d'affaires. Nous devons faire très attention. Nous pensons que la rémunération équitable doit être là pour le contenu. Donc, les gens qui payent pour le contenu devraient pouvoir télécharger ça sur un iPod ou sur un CD, mais pas pour le partage de fichiers. Et je ne serai probablement pas d'accord avec certains des collègues ici. Nous pensons que le fait que les FSI profitent de notre contenu n'est pas acceptable. Donc, on pense que les FSI ont une certaine responsabilité lorsqu'ils distribuent notre contenu. Nous sommes d'accord avec la copie privée, ce régime de copie privée, et on pense que le modèle d'affaires, ce serait un type d'octroi de permis qui devrait exister. Certains de mes collègues ont certaines craintes, mais on est ici de bonne foi et nous sommes prêts à débattre de notre position. Merci. Je m'appelle Christian Clark de CARFAC. Je vous remercie d'avoir organisé ces consultations. Merci à Nicole et Dean d'être venus ici à Peterborough. CARFAC est une organisation à but non lucratif et représente les artistes du spectacle professionnel. Donc, nous sommes une organisation de service aux artistes. Et nous avons comme mandat de faire la promotion des arts au Canada, créer un milieu économique qui permet l'épanouissement et de faire de la recherche et fournir de l'éducation. C'est une organisation qui existe depuis 1968 et est reconnue dans une loi. Et donc, nous avons un conseil d'administration composé d'artistes. J'aimerais vous parler de deux choses, en deux volets. J'aimerais vous parler de notre appui de la coalition pour les créateurs et j'aimerais aussi faire des suggestions au sujet du droit de revente. Donc, la coalition des créateurs de droits d'auteur représente différentes associations, que ce soit dans le théâtre, la littérature, la musique, l'enregistrement, l'audiovisuel, télévision, film et publicité. Ces associations et ces fronts représentent plus de 100 000 créateurs, interprètes et écrivains. Et nous sommes un partenaire dans cette coalition. Nous défendons les intérêts des auteurs et des créateurs. Dans un document de 2008 où on parle de la révision, la réforme sur les droits d'auteur, les points de vue des organisations de perception sont représentés. Donc, nous pensons que tous ces éléments sont essentiels pour la vie culturelle de notre pays. Si ces nouvelles réformes protègent les droits des créateurs, ça va encourager les arts, contribuer à notre culture et enrichir tous les Canadiens. Qu'est-ce que nous pensons seraient les meilleures réformes pour encourager la créativité? Eh bien, tout d'abord, les artistes, les photographes devraient avoir les mêmes droits que d'autres artistes et qu'il y ait aussi un droit, une conformité au droit de la reproduction. Et il y a aussi une protection pour les droits moraux qu'on préconise et on pense qu'il y a tout le secteur numérique qui doit aussi être couvert par ces différentes organisations. J'ai parlé du traité de l'OMP, mais j'aimerais aussi vous parler de l'OMC. Donc, si vous regardez à creatorscopyright.ca, vous trouverez notre position. En ce qui concerne le droit de revente pour les artistes, qu'est-ce qui nous positionnerait le mieux dans le monde actuel? Eh bien, en ce qui concerne C61, on traite d'obligations internationales, mais pas le droit de revente. 54 pays à travers le monde ont déjà signé la Convention de Berne, y compris le Royaume-Uni, l'Irlande et l'État de Californie. Bon, c'est peut-être pas un pays, mais le Canada pourrait accuser un retard à ce sujet. Le droit de revente permettrait aux artistes médiatiques de recevoir des redevances lorsqu'il y a revente de leurs œuvres. Et c'est vrai que l'art, souvent, ou les œuvres prennent de la valeur avec le temps. Les artistes autochtones perdent lorsqu'il y a une revente de leurs œuvres. Des collègues qui vivent dans le Nord vivent de façon très pauvre et leurs œuvres prennent beaucoup de valeur. Et le gouvernement australien a envisagé le droit de revente après que Clifford Possum a eu une de ses œuvres qui a vendu pour plus de 2 millions de dollars il y a 10 ans. Et 30 ans après que l'œuvre avait été vendue pour 1 200 $, l'artiste n'avait rien reçu pour cette revente. S'il pouvait y avoir des ententes réciproques avec d'autres pays pour cette revente, si un artiste britannique a une œuvre vendue en France, ils peuvent bénéficier parce que la convention a été signée par les deux pays. Mais si une œuvre de cet artiste est vendue au Canada, ils ne reçoivent pas de redevance parce que nous ne reconnaissons pas ce droit de revente. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Jason Bird.
Je suis représentant du conseil scolaire de Kawartha. Nous avons 33 000 élèves, plus de 4 500 enseignants et administrateurs. Je m'occupe de divers aspects administratifs, et y compris les droits d'auteur. S'occuper de ça, c'est très difficile. Je dois payer des droits pour les photocopies, notre licence pour Sokan, pour qu'on puisse avoir de la musique pop aux différents événements. On doit aussi couvrir les événements. Et avec ces licences, je m'assure que les enseignants et les élèves respectent ça. Donc, nous payons beaucoup pour ces licences et donc on respecte ce droit à être payé pour son travail. Merci. En plus, nous dépensons des centaines de milliers de dollars pour le matériel dans les bibliothèques, pour les écoles et les centres de ressources. C'est des revues, des livres, et donc on traite avec beaucoup d'éditeurs, etc. Le gouvernement de l'Ontario a respecté une promesse électorale pour donner de l'argent aux bibliothèques dans les écoles. 60 millions de dollars va être dépensé pour les livres dans les écoles ontariennes. Nous avons aussi une grande bibliothèque vidéo et nous investissons dans les documentaires canadiens et nous payons pour les droits de spectacle pour ce qu'on achète. Et les écoles aussi payent pour les livres électroniques et des réseaux. Et donc, les centres de ressources, les écoles, les bibliothèques dépensent des millions de dollars. Et c'est un service en croissance. 45 % de mon budget est pour tout le matériel numérique. On n'a pas le droit de contourner ces mesures. Une nouvelle loi sur les droits d'auteur doit avoir un équilibre entre fournir des services aux consommateurs et protéger les détenteurs de droits. Nos élèves doivent pouvoir être présents dans le monde numérique, doivent pouvoir avoir accès à différents produits et les enseignants doivent pouvoir prendre des clips de différents moyens et pour fin d'enseignement uniquement. Il y a la loi américaine qui a été introduite en 2006 et il y a aussi une loi australienne qui a été adoptée. Aux États-Unis, il y a une exception qui a été acceptée et je pense que cette même exception devrait s'appliquer aux enseignants. Avec une nouvelle loi, le personnel des conseils scolaires doivent pouvoir accès à un milieu numérique. Les liens avec l'Internet. Ce projet de loi doit permettre l'utilisation éducative de l'Internet. Ça s'applique aux enseignants, aux élèves qui puissent être en contact entre eux. Nos élèves sont beaucoup sur l'Internet. Et si on ne peut pas leur enseigner sur une bonne utilisation de l'Internet, les différents points de vue qu'on trouve sur l'Internet, l'étiquette sur l'Internet, ils ne sont pas prêts pour le monde numérique qui les attendra quand ils auront terminé leurs études. Donc, s'il y a des licences octroyées pour permettre, qui ne permettraient pas un accès libre, eh bien, ce serait limiter l'utilisation à l'Internet aux élèves. Et c'est relié un peu à la politique du CRTC 2009-329 où le CRTC s'est prononcé sur l'Internet. Il s'agit aussi de la neutralité sur l'Internet. Le commissaire du CRTC, Timothy Findlay, a dit que les Canadiens ont le droit de s'exprimer et ne doivent pas être assujettis à un système de licence. S'il y avait une licence numérique, le seul contenu auquel auraient accès les enseignants
ce serait les publicités. Donc, si nos systèmes de bibliothèque devaient payer pour ça, et on serait très limité. Et ce serait très difficile de réglementer tout ça en matière numérique. En plus, il y a d'autres éléments, et j'arrive à mon dernier point. Nouvelle loi doit permettre les commentaires et qu'il n'y ait pas d'infraction et que ce ne soit pas en violation aux créateurs de logiciels. Et par exemple, dans une bibliothèque, il y a les nouveaux catalogues qui permettraient aux élèves de commenter. Et tout ça, ça va sur un dossier qui serait accessible, comme on voit sur Amazon.ca ou chez Chapters. Dans notre conseil scolaire, nous sommes en train de former nos nouveaux bibliothécaires sur un système où ils peuvent commenter leur lecture. C'est un outil pour les élèves qui leur permettrait de faire des critiques de livres. Les conseils scolaires qui utilisent ce système ont vu que leurs élèves aiment se voir sur l'Internet et donc sont encouragés à écrire plus. Donc, il faudrait qu'il y ait un certain contrôle et que ce soit géré par un système intégré. En permettant les commentaires interactifs ou en ne le permettant pas, ce serait nuire aux élèves de cette génération qui aimeraient avoir des conversations sur ce qu'ils ont appris. Ça devrait faire partie de la nouvelle. Ça devrait faire partie de la nouvelle loi pour les différentes bibliothèques, y compris les bibliothèques publiques où j'ai travaillé. Merci de me permettre de représenter le conseil scolaire de Kawartha. Je serai intéressée de voir les résultats de ce processus. Et donc, j'espère que vous avez tenu compte de mon commentaire pour le secteur scolaire.
Merci, je suis Victoria Owen, je représente l'Association des bibliothécaires. Et je vous remercie de nous accorder la parole pour pouvoir présenter notre point de vue. Les bibliothèques font partie du système éducatif, de la culture, de l'accès au savoir, au patrimoine national et à la protection de ce patrimoine. La responsabilité des bibliothécaires, c'est de nous assurer que les politiques sur l'information de notre pays sont harmonieuses avec les autres politiques qui touchent le reste du monde. L'Association des bibliothécaires de l'Ontario soutient les autres bibliothécaires qui ont déjà présenté l'importance de l'utilisation équitable. Nous aimerions que la loi sur le droit d'auteur soit renforcée par la Cour suprême qui a identifié l'utilisation équitable comme un droit d'un usager. Et on aimerait bien qu'on en soutienne son interprétation. La capacité des usagers dans l'utilisation équitable ne doit pas être menacée par la nouvelle loi. Pour l'atteindre, la loi canadienne doit permettre de contourner l'objectif protégé par le droit d'auteur. On doit pouvoir utiliser des œuvres de façon légitime. Il ne faudrait pas que ce soit illégal de contourner les lois sur le numérique. Ce sera une façon pour nous de respecter le traité sur l'interprétation internationale de l'OMPI et la violation porterait uniquement sur la contrefaçon. Il faut aussi protéger les personnes handicapées. En effet, les serrures numériques rendent très difficile à des personnes handicapées l'usage des ressources numériques. Le problème des serrures numériques dans la loi canadienne est le suivant. Peut-être qu'on respecte nos obligations en vertu du traité de l'OMPI. Il ne faut pas déclencher une contestation en vertu de la Constitution devant la Cour suprême en matière d'accès. Le Canada doit maintenir la protection actuelle accordée par des contrats. Il ne faut pas que les lois statutaires soient violées par d'autres contrats. Je pense à des contrats sur l'ouverture des cellules numériques. En effet, dans la loi sur le droit d'auteur, les droits des usagers devraient être prioritaires par rapport au contrat standard. Un contrat négocié par deux parties peut avoir préséance sur la loi. Autre point, les institutions comme les bibliothèques et leur personnel ne devraient pas être soumises à des dommages et intérêts lorsqu'ils se servent d'une œuvre dans le cadre de l'utilisation équitable. Les erreurs numériques sur les objets numériques représentent deux problèmes pour les bibliothèques. Premièrement, ils les empêchent de conserver l'accès à long terme aux données numériques. Même si le droit d'auteur est expiré, les bibliothèques devraient pouvoir transférer du contenu dans d'anciens formats vers de nouveaux formats. Il ne faudrait pas être obligé d'attendre que le format original soit obsolète, parce que ça rend très difficile la possibilité de lire ou de convertir le contenu. Et une serrure pour permettre cette activité devrait être acceptée. Ces serrures numériques peuvent empêcher une bibliothèque à rendre un contenu numérique accessible par des personnes handicapées. Pour aider des personnes ayant de la difficulté à lire, il faudrait que la bibliothèque ou l'institution puisse convertir le travail dans un format utilisable par une personne handicapée. Il devrait être permis de contourner ces serrures numériques pour cette fin. Les bibliothèques peuvent déclarer que nous sommes les plus gros clients des artistes. Nous sommes un gros marché et nous sommes la source la plus stable pour les éditeurs. Pour beaucoup de bibliothèques universitaires, le financement vient du gouvernement, au bout du compte, du contribuable. Ce qui nous ramène à ce que je disais au début. Nous sommes là pour refléter les valeurs de notre société et atteindre les objectifs de cette dernière. Les bibliothécaires ne veulent pas de situation d'exception. En fait, nous créons aussi les lecteurs. Je peux vous donner un exemple. Les bibliothèques publiques achètent plus de 65 millions de dollars d'œuvres tous les ans. On contribue aux agences de gestion des droits d'auteur. Autre exemple, l'Association ontarienne des bibliothèques a un programme de lecture. Ce programme a eu un effet direct sur la publication de livres au Canada, sans précédent. Ce programme génère 1,4 million de dollars chaque année en nouvelles ventes de livres au Canada. Aucun autre programme ne peut se vanter d'atteindre de tels chiffres. Les effets économiques positifs d'une politique solide d'utilisation équitable a fait l'objet de deux études et elle a été confirmée. Une association américaine a réalisé une étude et il y a eu le Gowers Review en 2006. Les Canadiens appuient les subventions au Conseil des arts et autres. La population canadienne soutient les créateurs au Canada. Ça fait partie de notre politique publique. On soutient aussi l'éducation et l'apprentissage tout au long de sa vie. C'est pour ça qu'on a accordé des exceptions à d'autres objectifs de politique publique comme l'utilisation équitable pour la recherche, les études privées et accès à du contenu pour les personnes ayant des difficultés de lecture. Nous sommes dans une position unique. On est le plus gros marché du Canada pour des produits d'information et des produits culturels. C'est nous le marché. Nous créons aussi ce marché. Et nous parlons au nom de tous nos usagers. Merci. Je m'appelle Rob Labossière de l'Association des directeurs de musées d'art, CAMDO. Je voudrais vous remercier de nous accorder ce droit de parole. À Toronto, à Ottawa et ailleurs, il y a eu énormément de monde. Je suis ravie que vous ayez décidé d'ajouter cet endroit-ci. Ça nous a permis de mieux nous préparer. Il est clair qu'il y en a qui sont encore mieux préparés que moi, mais j'ai quand même des notes sous les yeux. Je voudrais surtout vous sensibiliser à certaines questions et à certains enjeux. Je n'ai pas l'intention de vous présenter une position en tant que telle. Nous représentons les directeurs de musées d'art et de galeries d'art au Canada. Il y a Matthew Teitelbaum, directeur de la GEO, Kathleen Bartel, galerie de l'art de Vancouver, Jennifer Woodbury, directrice de la galerie d'art de Brandon, Manitoba, ainsi que here at Peterborough, nous avons Celeste Coppolady, qui est directrice de la galerie d'art de Peterborough. Les musées se trouvent dans une situation un peu inconfortable face aux questions de droits d'auteur. Elles produisent, d'une part, pas comme les sociétés d'enregistrement ou les éditeurs, elles travaillent avec des artistes pour pouvoir présenter l'art au public. Mais nous sommes aussi des créateurs de contenu, c'est-à-dire on crée de la documentation, des expositions. Mais si on veut comparer les musées au monde commercial, on se trompe, parce que nous avons probablement plus en commun avec des bibliothèques que des universités. Nous sommes d'une part des institutions publiques, c'est-à-dire financées par la collectivité, et des établissements qui fournissent un service sur une base non lucrative. Ainsi, la discussion autour de la table sur le contournement des droits nous pose énormément de problèmes, parce que ce sont des questions qui concernent beaucoup plus l'industrie, l'industrie qui travaille avec la technologie, beaucoup plus que les musées. Et du coup, ça soulève une question. Est-ce que la loi sur le droit d'auteur peut être modifiée positivement pour pouvoir traiter avec un changement aussi radical dans la société? Je ne serais peut-être pas la première personne à dire qu'il faudrait peut-être s'en débarrasser entièrement et repartir de zéro. Je ne sais pas si c'est possible, mais à un moment donné, on a l'impression qu'on fait du rafistolage et qu'on perd de vue le but recherché. Pour en revenir à l'aspect conceptuel et à la discussion d'aujourd'hui, je dirais que la principale différence entre nous et les autres, c'est que la loi sur le droit d'auteur a été conçue pour aborder la question des copies illégales de livres ou d'enregistrements. Alors qu'aujourd'hui, la technologie ne s'applique pas juste à des objets, mais à une série continue de données. Et ça, c'est un changement radical. Ça devient plutôt un flot de données et la réglementation de ce débit de données. Comment est-ce qu'on peut rédiger une loi sur un débit de données? Cela exigerait d'étudier une série de modèles. Pour beaucoup de musées d'art et d'autres organismes à but non lucratif, tout comme les universités et les bibliothèques, nous avons à faire face aux complications administratives et aux coûts que cela implique de traiter avec le droit d'auteur. La situation est devenue très complexe, c'est un vrai fardeau administratif et du coup on peut se demander si ce n'est pas une façon de ralentir la créativité, l'innovation. Comment mesurer ces répercussions? C'est un phénomène très problématique. Il faut approfondir la recherche. La technologie, les compagnies de communication, les FSI, sont constamment en train de tester le marché et le contenu. C'est relativement facile de le faire pour eux, mais pour nous, ça l'est beaucoup moins. En plus, le gouvernement est assez ambitieux en voulant essayer de proposer une nouvelle loi sur le droit d'auteur, car les choses avancent très vite. En ce qui nous concerne, il faudrait pouvoir savoir dans quelle mesure la loi sur le droit d'auteur sous sa forme actuelle empiète ou non sur la distribution du contenu. Il faudrait étudier la complexité, le coût administratif, etc. Évidemment, la recherche pourrait se faire relativement vite, mais il faudrait en savoir plus. Ce qui nous concerne le plus, et Christian en a déjà parlé, c'est le droit afférent aux expositions. Ce droit représente un aspect important du droit de la loi sur le droit d'auteur, c'est-à-dire qu'il entérine le droit continu d'un artiste sur ses œuvres et sur la façon dont ses œuvres sont exposées. C'est une loi relativement étrange. Il y a très peu d'endroits au monde où il y a une loi sur les expositions aussi stricte qu'au Canada. Chez nous, on se demande s'il faudrait accorder une exception pour les institutions publiques, c'est-à-dire les galeries d'art. Le résultat de ce droit sur les expositions, c'est la production de droits que les galeries doivent payer régulièrement et avec plaisir, même si nous sommes souvent en négociation sur le montant de ces droits. Le principe sous-tendant cette situation, c'est qu'il faudrait trouver un moyen pour nous de rémunérer les auteurs de façon continue, parce que c'est une façon d'assurer un revenu pour eux. Par contre, le problème se pose, c'est quel est le montant qu'il faudrait prévoir? Comment arriver à atteindre le but recherché? C'est-à-dire, est-ce que ces revenus améliorent le sort des créateurs? Est-ce qu'ils leur donnent suffisamment d'incitatifs pour continuer à créer? Et une fois de plus, nous voyons qu'on manque grandement de données pour savoir si oui ou non ce but est atteint. Un certain nombre d'indicateurs semblent indiquer le contraire. Beaucoup de créateurs au Canada estiment qu'ils ne sont pas motivés à créer par la loi sur le droit d'auteur. Les droits de reproduction et les droits d'exposition vont main dans la main parce que chez nous aussi, la question qui se pose, c'est la numérisation des collections. Il y a une nouvelle tendance qui plaît à beaucoup de musées, c'est qu'on essaye de sortir nos collections des entrepôts. On aime l'idée de les mettre en ligne parce que c'est important pour notre viabilité à long terme. Donc, pour revenir à l'essentiel de la discussion d'aujourd'hui, les mesures de contournement de la loi. Il faut pouvoir trouver une exception lorsque les buts ne sont pas lucratifs. Il y a un autre aspect, une autre facette. S'il y a un cadre juridique qui fait que les mesures de protection numérique deviennent normalisées, il y a des créateurs qui ne fonctionnent pas au même niveau que d'autres, c'est que ces derniers vont devoir protéger leur contenu de la même façon. Et nous n'avons pas les moyens d'avoir un système double. Il faut donc voir un système général, un cadre général, mais il faut prévoir une bulle pour laquelle les limites pratiques seraient différentes. Merci. Bon, je crois que vous constatez que nous avons pris un peu de retard. Je vois que Nicole s'inquiète. je voudrais rallonger la séance pour pouvoir avoir une bonne discussion. Je vous demanderai de réduire vos commentaires au maximum, quelques minutes. Ce serait bien parce que moi, personnellement, j'aimerais vous lancer une série de questions et j'aimerais savoir quelle est votre réaction. Donc, soyez gentils de résumer vos commentaires. Merci. J'en ai pour 5 minutes à peu près, si vous le permettez. Je m'appelle Howard Knopf. Je suis avocat en droit d'auteur depuis 30 ans. Je travaille aussi sur des dossiers importants en matière de droit d'auteur qui ont été amenés devant la Cour suprême des États-Unis et du Canada. Je fais partie du comité des droits d'auteur du barreau, mais je ne suis pas venue ici représenter mes clients. Mes clients, il y a des utilisateurs, des propriétaires, il y a aussi de grandes sociétés, mais des personnes, des particuliers modestes. Je suis venue ici parce que c'est une question qui m'intéresse énormément. Pour arriver à trouver une situation optimale, il faut commencer par simplifier la pratique. Et je peux vous donner une série de suggestions très concrètes et très pratiques. Premièrement, les dispositions sur l'utilisation équitable doivent être simplifiées. Elles doivent inclure une liste sans qu'elle soit exhaustive. Ça pourrait se faire simplement en disant « comme », par exemple, ou bien « enseignement », y compris « copies multiples pour une salle de classe », comme on le voit dans la loi américaine. Il faut aussi prévoir une exception pour la satire et les parodies, qui ont été refusés chez nous. Cette approche simplifiée éliminerait des pages et des pages d'exceptions inutiles, compliquées, qui, d'après certaines institutions éducatives, seraient utiles. La Cour suprême du Canada a suggéré dans CCH 2004 cette démarche aiderait les musées, les bibliothèques, les archives. Ça serait une façon de simplifier énormément beaucoup de choses et de raccourcir la procédure de rédaction de la nouvelle loi. Et ça donnerait à toutes ces personnes ici présentes les exceptions dont elles ont besoin. Les dispositions sur les redevances devraient être simplifiées. Elles sont obsolètes. C'est une approche qui a été rejetée au RU, aux États-Unis et ailleurs. En conservant ces redevances, nous avons une taxe sur les iPods, mais le principe du traitement national exige que le passif du Canada sera doublé. Ça pourrait coûter des milliers de dollars chaque année. Ce système de redevances se trouve dans la partie 8 de la loi. Il suffit de l'éliminer entièrement. Cela permettrait d'ouvrir la porte à la ratification de l'OMPI. 3. Les recours. Les recours devraient être simplifiés. Les dommages et intérêts minimums devraient être éliminés, sauf quand on peut prouver qu'il y a eu un usage commercial à but lucratif. Au Canada, on ne devrait même pas pouvoir avoir 2 millions parce que une mère seule a téléchargé de la musique. Une tentative a été faite par l'industrie de la musique. Elle veut que l'on change la loi. Ne leur donnez pas cette occasion parce qu'elles vont s'en servir. N'imaginez même pas une situation où on aurait droit à 3 essais où on pourrait confisquer un appareil iPod. 4. Le débat sur le contournement devrait être simplifié en permettant ce contournement légal, notamment pour des personnes handicapées, l'archivage et bien sûr pour la réparation d'un ordinateur. Surtout lorsqu'on se sert des TPM, des DREM pour télécharger des virus. Il faudrait permettre certaines reproduction. Sinon, on éliminera entièrement des choses comme des photocopieuses. Il faudrait simplifier le débat sur TPM, DREM. Il faut se souvenir d'un seul principe. Les Canadiens ont besoin de protection contre les DREM et contre le TPM et pas pour ces derniers. 5. Il faut simplifier la question complexe. Est-ce que la loi sur le droit d'auteur peut être utilisée pour contrôler le libre-échange et des articles venant de l'étranger, là où le droit d'auteur ne comporte que sur l'emballage, par exemple, et des éléments secondaires du produit. La loi sur le droit d'auteur n'avait jamais comme objectif de réduire le libre-échange. 6. Il faut avant tout assurer la neutralité technologique et une langue harmonieuse. L'ancienne loi, basée sur la loi de 1924 britannique, a été répliquée. Elle est encore relativement bonne. Elle était courte, élégante, elle ne portait pas sur la technologie, même si la technologie était déjà très présente. En conclusion, le Canada a deux choix. 1. Avoir une des meilleures lois sur le droit d'auteur du monde ou avoir la pire, comme le projet de loi C-61. Nous n'avons pas besoin de 50 pages supplémentaires de situations empirées au Canada, de jargon incompréhensible du genre C-61 comme le DMCA aux États-Unis l'a fait. Il faudrait faire mieux que les autres, pas copier les pires. Mes suggestions pourraient être appliquées en quelques jours, rédigées très vite, et si le projet de loi a plus que 6 pages, nous serons déjà dans un bourbier. On a déjà, en effet, l'une des lois sur le droit d'auteur les plus solides. Profitons de l'occasion pour l'améliorer encore. Merci.
Merci. Je m'appelle Chris Pang et je suis ici pour représenter Canwise Broadcasting. Juste quelques éléments. Nous sommes l'un des plus gros radiodiffuseurs du Canada. Pour le volet télévision, il y a Global, ainsi que 18 chaînes spécialisées, y compris les plus populaires du pays. Sans parler des portails de chacun de ces services en ligne. Nous sommes aussi l'un des éditeurs de journaux principaux avec du contenu sur les nouvelles du contenu spécialisé qui se trouve aussi sur canada.com. C'est-à-dire que nous sommes de gros usagers et nous sommes des détenteurs aussi de droits d'auteur, sans parler des signaux télévisés. Nous publions des journaux, mais je vais aujourd'hui vous parler uniquement de la radiodiffusion. Notre relation avec les créateurs est symbiotique. Les créateurs créent du contenu audiovisuel. Entre parenthèses, vous avez vu certainement tous les gens qui se sont présentés devant vous étant des auteurs qui ont été dans nos programmes. Nous permettons aux créateurs d'être publiés ou d'être diffusés, ce qui génère des revenus pour ces mêmes créateurs. Le cycle continue avec le public. Nous voulons que cette relation se poursuive et nous pensons que la réforme du droit d'auteur peut jouer un rôle pour permettre la perpétuité de cette relation. Le début du projet de loi dit que la loi doit soutenir la créativité grâce à des règles claires et prévisibles. Ça résume très bien ce que nous attendons de la réforme sur le droit d'auteur. Pour ce qui est des usagers, pour nous, clair, équitable et prévisible, c'est une façon d'assurer que le fardeau de redevance soit réaliste et qu'il représente une certaine valeur. Valeur pour l'usage, mais aussi une valeur pour le créateur qui reçoit une certaine exposition. Prenons l'exemple de la radio. On a dit à une autre réunion, il y a plus de 11 paiements différents à différentes sociétés qui sont nécessaires pour ce monde où il y a plein de plateformes. En tant que diffuseur de télé et numérique, on a l'impression qu'on risque d'arriver à ce même niveau pour le contenu audiovisuel. Canwise paye plus d'1 million de dollars tous les mois pour régler les droits d'exécution pour les programmes télévisés. Ce n'est qu'une redevance pour la télévision spécialisée. Au Québec, il y a déjà des diffuseurs qui doivent payer des droits de reproduction pour le tarif de télévision numéro 9. Et s'ils obtiennent leur accréditation, comme c'est proposé actuellement, cela signifiera que nos redevances seront encore doublées. Elles sont déjà à 1 million chaque mois. Et ça, ce n'est qu'un aspect de ce qui a été proposé aujourd'hui. Alors, ce qui nous inquiète, c'est la prolifération de ces nouvelles redevances. On se demande si c'est la partie émergée de l'iceberg ou non. Et justement, parlons de prévisibilité et de certitude. C'est certainement un aspect dont nous aimerions entendre parler beaucoup plus dans la réforme. Ce n'est pas que la télé et la radio qui sont concernées. C'est pareil pour le contenu audiovisuel pour toutes les plateformes numériques. Donc, nous appuyons la réforme pour un usage unique et un seul système de redevance qui reconnaît que le total de la valeur devrait être réparti entre les intervenants concernés, mais que ce total qui devrait augmenter de plus en plus, à un moment donné, sera insupportable. Nous comprenons qu'il faut qu'on paye pour le contenu qu'on utilise, y compris la musique, mais nous voulons quand même que le système soit équitable pour nous aussi. Encore un dernier point. Je vais mettre de côté le contenu. Je vais prendre l'angle du propriétaire. Nous appuyons les changements à la loi pour reconnaître le droit du télédiffuseur pour être indemnisé pour la retransmission de signaux télévisés locaux. Ça continue d'être un problème pour le CRTC, mais je devrais quand même le mentionner dans ce cadre-ci parce qu'après tout, on peut considérer que c'est un droit de communication en vertu de la loi sur le droit d'auteur. C'est donc une question fondamentale, importante pour Canwest, compte tenu des déclins structurels de notre modèle de recettes télévisées. Je m'arrête là et j'espère que nous allons approfondir cette question. Merci.
Good afternoon.
Je m'appelle Stuart Waki, je représente l'Assemblée des Premières Nations. Nous représentons 633 collectivités. On représente le leadership et ses citoyens dans les réserves et à l'extérieur. L'Assemblée des Premières Nations est d'avis que la loi actuelle ou cette proposition de loi qui se penche sur l'aspect numérique est trop rigide. Les Premières Nations ont participé à beaucoup de discussions et débats au sujet des droits d'auteur au sein de l'OMPI, la diversité biologique et d'autres forums internationaux. Nous aimerions avoir un système obligatoire qui protégerait les connaissances des Autochtones, des connaissances qui relèvent de la propriété intellectuelle. Nous sommes d'avis que les lois actuelles de la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, ne représentent pas suffisamment nos expressions culturelles, nos connaissances de l'environnement, de la nature, etc. La danse, les chansons, les contes, ainsi de suite, sont souvent volés, reproduits, copiés, adaptés, est vendu sans qu'il y ait aucun avantage pour les inventeurs, les créateurs et les Premières Nations. Et ça, c'est un problème constant. Les Premières Nations veulent des lois de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, qui leur donneraient un recours suite à ces infractions de nos propriétés intellectuelles. Les lois actuelles encourage le vol de ces créations et permet l'exploitation par des tiers qui ne sont pas autochtones. J'aimerais vous parler de l'incompatibilité des lois actuelles par rapport aux Premières Nations et nos expressions culturelles. Tout d'abord, l'exigence d'originalité. Beaucoup de nos contes, nos traditions, nos spectacles remontent à des centaines d'années. L'exigence d'originalité pour la propriété intellectuelle empêche la protection de nos expressions culturelles très souvent. Le fait qu'il faut qu'il y ait des auteurs connus, ça c'est problématique parce que notre propriété intellectuelle, c'est nos histoires, nos chansons, et il n'y a peut-être pas des auteurs connus. Et l'exigence de propriété aussi, c'est un élément intéressant. Qui est propriétaire de ces expressions? Ça, c'est aussi un problème. Et pour les films, les enregistrements, les choses qui sont protégées, c'est généralement un producteur qui en est le propriétaire, pas les Premières Nations ou les inventeurs de ces expressions culturelles. Autre problème avec les lois actuelles, c'est des exigences d'être fixées sur papier ou sur film. Et ce que nous avons, c'est pas toujours dans des livres ou sur des films. Et donc, parce que nos expressions culturelles ne sont pas nécessairement fixées, nous ne sommes pas protégés par les dispositifs d'une loi sur la propriété intellectuelle. Dans la loi sur les droits d'auteur, il y a un objectif qui est d'encourager la créativité, l'innovation et, pour finir, que certaines œuvres relèvent du domaine public. Et on peut permettre des adaptations de thèmes et de concepts dans la loi. Donc, certaines œuvres qui sont protégées, et nous pensons que ces imitations des expressions culturelles des Premières Nations, c'est équivalent à un vol. Le domaine public, c'est aussi problématique pour nos expressions culturelles, comme je l'ai déjà dit. L'objectif est de s'assurer que toutes ces œuvres relèvent du domaine public. Pour les Premières Nations, que ce soit ici ou à travers le monde, on veut s'assurer que ces connaissances restent avec la collectivité. Et le domaine public, c'est quelque chose qui nous est étranger et qui va à l'encontre de nos espoirs. Et donc, aussi, il y a la question de délai en matière de propriété intellectuelle et droits d'auteur. C'est pas quelque chose qu'on veut voir des échéanciers, des délais, mais on aimerait que la propriété de cette propriété, cette protection pour les propriétés intellectuelles passe d'une génération à une autre et reste à tout jamais au sein de la collectivité. L'Assemblée des Premières Nations serait intéressée à travailler avec le gouvernement fédéral pour développer des mécanismes juridiques qui pourraient protéger de façon utile les créations des Premières Nations. Donc, il y aurait la question de propriété en perpétuité, la non-autorisation de certaines propriétés, les insultes, la protection contre les insultes, l'empêchement qu'un tiers puisse avoir des droits d'auteur de nos propriétés. Et l'utilisation non autorisée et secrète de certaines expressions. Donc, beaucoup de ces questions pourraient être résolues si on reconnaissait nos lois et nos systèmes juridiques coutumiers. Mais puisque les gouvernements ne sont pas très intéressés à reconnaître ses droits, on est d'avis que si les gouvernements continuent à affirmer ses droits pour les peuples autochtones, en vertu de l'article 91, il n'y a pas vraiment possibilité de conciliation. Et donc, il faudrait quand même envisager des pourparlers avec les Premières Nations. Quand on parle d'expression culturelle, c'est très important pour les Premières Nations. Quand on parle des pensionnats qui ont beaucoup traumatisé beaucoup d'Autochtones, il y avait aussi des adoptions forcées de ces enfants autochtones. Et tout ça, ça a eu un impact très grave sur nos collectivités, un impact dévastateur. Mais une chose qui a gardé nos collectivités ensemble, c'est notre identité culturelle, nos œuvres, nos danses, nos chants. Et parce qu'on a pu maintenir ça et maintenir son authenticité, nos cultures, nos langues s'épanouissent dans bien des endroits au pays. Et c'est pour ça que beaucoup de Premières Nations veulent la protection continue des expressions culturelles authentiques pour que ces connaissances passent d'une génération à l'autre, nos histoires, notre identité. Et l'imitation, l'adaptation de ça, la permission de tout ça, avec les systèmes actuels de droits d'auteur, de brevets, empêche ces Premières Nations à garder ça pendant des générations. Pour nous, c'est problématique. Ceci dit, on aimerait travailler avec le gouvernement fédéral pour trouver une solution utile à ces problèmes. Merci beaucoup.
Bonjour, Monsieur Del Mastro, Madame Frenette. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Mon nom est André Cornelier. I'm a photographer and I'm a small business.
Je suis photographe et homme d'affaires et je suis président de l'association de photographes et des illustrateurs. Je suis ici pour féliciter le gouvernement d'avoir inclus une disposition pour les photographes dans ces propositions d'amendement à la loi du droit d'auteur. Et j'espère que vous allez continuer cela. Nous représentons une coalition de 14 000 photographes, dont 95% représentent la PME. La coalition est préoccupée par le fait que la loi actuel désavantage les photographes par rapport à nos pairs ailleurs et au Canada. Les photographes sont la seule exception à la loi sur le droit d'auteur. Et c'est le droit d'auteur est donné à la personne qui demande la photo et pas au créateur de la photo. Dans presque tout pays industriel, y compris l'Australie, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, les photographes sont premiers propriétaires de leur œuvre. À cause de ces dispositions, les photographes à l'échelle internationale peuvent obtenir des revenus avec des droits venant de différents pays. La disposition dans le projet de loi C-61 aurait répondu à cette inégalité et aurait créer une équité entre l'usager et le créateur. Et il y aurait eu pour les photographes un droit d'auteur lorsque il y a des commandes pour leur œuvre, et tout en assurant aux Canadiens que leurs photos pouvaient être utilisées pour des fins personnelles. J'aimerais vous donner le point de vue de personne d'affaires que je suis. En vertu de la, et pour vous expliquer comment fonctionne la loi sur les droits d'auteur. Depuis la numérisation des photos, nous devons investir 100 à 150 000 $ de plus par année qu'auparavant. Autrefois, on achetait un appareil qui durait 20 à 25 ans. Maintenant, on doit acheter un appareil, et tout l'équipement, les imprimantes, les ordinateurs, etc. Donc, tout ça, ça doit venir de nouveaux revenus. Dans les autres pays, parce que les photographes ont des droits d'auteur, ils peuvent
ils peuvent vendre leurs photographies dans les collections Getty et autres et vendre leurs œuvres partout au monde. Une agence comme Cosette, qui est une agence canadienne, dépense 1,5 million de dollars par année pour acheter des photos qui sont entreposées. Et ça, la plupart viennent de chez Getty et d'autres compagnies étrangères. Donc, si les Canadiens ne peuvent pas participer à ce marché, on n'a pas les revenus que les autres photographes ont ailleurs, dans d'autres pays. Et donc, c'est difficile de faire ces dépenses à chaque année. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'urgent et d'important, et surtout avec la récession. Et on vous encourage d'adopter ce projet de loi. On a commencé à discuter avec le ministère un petit changement technique par rapport à la disposition dans le projet de loi C-61. On aimerait continuer cette conversation. Merci. Elliot Noss de Two Cows Inc. Two Cows est le plus grand grossiste de services Internet au monde. Je parle d'enregistrement de domaines, les certificats numériques, ainsi de suite. Et je suis président de cette organisation et je vois les marchés des services d'Internet à travers le monde. Nous avons des milliers de clients dans plus de 100 pays au monde. Et je vois les réseaux de distribution des services d'Internet à travers le monde. Ça nous donne une perspective assez particulière, surtout lorsqu'on parle de FSI, les redevances, le rôle des fournisseurs de services, ainsi de suite. Je vais tout d'abord dire que nous avons une soumission que nous avons affichée sur le blog de la compagnie. Donc, vous pouvez aller y faire appel. Donc, vous pouvez lire ça. Donc, il y a des commentaires sur les droits d'auteur et sur l'innovation. Et quand j'écoute les gens ici, je vous encourage à lire les commentaires sur notre site web. J'ai eu un rôle à jouer au sein de CAPE, le premier organisme pour les FSI, et j'ai aussi joué un rôle avec ICANN. Et ils ont un rôle très spécial en matière d'Internet, etc. On parle beaucoup du rôle du fournisseur de services en tant que percepteur et en tant que policier. Et j'aurai quelques commentaires là-dessus. Tout d'abord, quand on parle de fournisseur de services en tant que policier, il faut reconnaître qu'on ne parle pas que des fournisseurs d'accès. On parle de compagnies hautes et d'autres différents types de compagnies qui ont des structures très différentes par rapport au FSI. Et ces compagnies-là sont beaucoup plus petites. Il y en a des milliers au Canada avec des dizaines de milliers d'employés. Ils n'ont pas de contentieux. Ils n'ont pas d'avocats juridiques comme on voit pour les plus grands FSI. Ce sont des petites personnes d'affaires qui essayent d'aider les commerces, les petits commerces, la PME, à utiliser l'Internet pour que ce soit plus utile, plus accessible et facile pour eux. Et transformer ces petits commerces en policiers, plus qu'ils le sont aujourd'hui, ce serait un fardeau qui leur nuirait quand eux, ils veulent être concurrentiels avec d'autres fournisseurs de services. Et c'est exactement le cas quand vous vendez ces services d'autres de web. Donc, ça nuit aux petites entreprises beaucoup plus qu'aux grandes entreprises. Ensuite, le rôle de ces FSI en tant que percepteurs d'impôts, c'est un fardeau non nécessaire. Et il faut penser à l'avenir, pas nécessairement au présent. Aujourd'hui, au Canada, avec le respect que nous avons pour les gens ici, la situation pour la bande large est très désastreuse par rapport à d'autres pays. Et c'est pire que pour les pays en développement et nouvellement développés. J'ai vu toutes sortes de marchés à travers le monde. Et pour que notre marché s'améliore, il faudra devenir plus concurrentiel avec des petits joueurs, de nouveaux joueurs. Et on ne peut pas imposer ces fardeaux à cette industrie. On va nuire à notre secteur de bande large. La plus grande limite à l'innovation, ce n'est pas le manque de protection des droits d'auteur, mais c'est notre système byzantin des droits, et on en a un peu parlé aujourd'hui, et le fait que la bande large est inacceptable. Dernier commentaire, et j'ai lu un peu la transcription consultations. J'aimerais parler de Nicole, de Dean et d'autres qui représentent le gouvernement. Vous avez vraiment une occasion idéale. Je vous félicite pour cette consultation et vous l'avez fait de façon très astucieuse. Vous utilisez les outils qui vous sont mis à votre disposition. Ça, c'est déjà le 50%. Mais ce qu'on voit ici, c'est que on a entendu les gens et moins les lobbies. Et donc, on a vu ça lorsqu'il y a eu la réaction négative au projet de loi C-61. Et on voit aussi ce qui se passe avec cette consultation. Donc, vous avez un rôle important où vous avez la possibilité de faire une différence. Et je vous encourage fortement à saisir l'occasion, faire preuve de courage. Je vous promets que si vous écoutez les intervenants, c'est très facile de savoir ce qu'il faut faire. Et si Howard Knopf m'avait montré ses commentaires, je ne serais peut-être même pas venue aujourd'hui. C'est facile à savoir ce qui est la chose à faire, mais c'est difficile de le faire. Mais lorsque vous écoutez les gens, vous écoutez les Canadiens, vous allez recevoir des menaces et toutes sortes de tactiques, les cartels de droit et les intérêts spécialisés, tous ces gens-là vont vous menacer. Mais chez ICANN, on a vu que si vous donnez des droits à des groupes spécialisés, ils vont s'en servir et ils vont même les exploiter. Et c'est leur travail. Et votre travail, c'est d'écouter, de faire le tri, décider ce qui est la vérité par rapport au bruit et nous donner un projet de loi qui sera excellent pour le grand public. Merci.
Thank you. My name is Susan Wheeler and I'm here on behalf.
Je m'appelle Susan Wheeler et je représente Rogers Media. Nous avons 53 stations de radio, Omni et City Télévision, 5 services spécialisés, et nous avons aussi des revues et des journaux. Ken Thompson, mon collègue, a été à Toronto la semaine dernière et il a fait une soumission quant au nom de Rogers Cable. Merci de nous avoir invités et je suis sûre que pour nous entendre en tant que télédiffuseur.
nous utilisons et nous sommes propriétaires de matériel de droit d'auteur. Nous sommes un lien aussi, on crée une valeur pour ce travail dans la promotion et l'exploitation du contenu sur des plateformes multiples. Donc, on comprend très bien l'équilibre nécessaire pour les usagers et les créateurs. Étant donné toutes les discussions qu'il y a eu, je vais me limiter à deux sujets qui intéressent tout particulièrement les diffuseurs. Il faut limiter la responsabilité pour les activités individuelles et il faut simplifier le système pour le paiement de droits d'auteur. Pour les radiodiffuseurs, quand on reçoit un fichier d'une compagnie de musique et on transfère ça au serveur, aussi on se prépare pour la diffusion. D'après les lois actuelles, ça déclenche comme droit de reproduction. Les stations de radio ont 6 paiements à payer, 4 pour le droit de reproduction et ils payent ça pour aux mêmes détenteurs de droits que ceux qui reçoivent l'argent pour la diffusion en soi. Donc ça décourage les radiodiffuseurs à trouver de nouvelles technologies. On aimerait une exemption dans la nouvelle loi qui permettrait que les fichiers numériques soient prêts pour la diffusion et que ça ne déclenche pas des paiements en plus qu'il y a déjà pour la télédiffusion de la musique. On croit au paiement équitable, certainement. En demandant l'exemption, on ne veut pas priver les créateurs, mais les radiodiffuseurs payent beaucoup pour la diffusion de la musique et appuient beaucoup les artistes de la musique en diffusant leur argent, leur musique plutôt. Nous avons contribué plus de 28 millions de dollars l'année dernière pour le contenu canadien en musique. Les télédiffuseurs n'obtiennent rien comme revenu pour le transfert des fichiers. C'est seulement dans la diffusion qu'on touche des revenus. Donc, nous voulons une approche équilibrée qui limiterait ces responsabilités pour les radiodiffuseurs. Et tout ça dans ce domaine des plateformes de diffusion. On pense que c'est important pour encourager l'innovation et pour encourager des nouveaux modèles qui bénéficiera à tous les parties prenantes. Deuxièmement, l'administration des collectivités. Donc, un nouveau système doit avoir des paramètres pour évaluer les droits. Comme j'ai dit, les radiodiffuseurs ont 6 tarifs lorsqu'ils diffusent la musique. Les radiodiffuseurs ont augmenté leur paiement parce qu'il y a de plus en plus de détenteurs de droits. La musique a une valeur. Ça ne dépend pas des nombres de détenteurs de droits. Jusqu'à récemment, ces tarifs ont toujours été assujettis à différentes procédures. Ça coûte très cher. Il y a eu des retards pour la commission des droits d'auteur et tout ça, ça a ralenti énormément le système. Les télédiffuseurs fonctionnent dans un monde qui change et doivent constamment adopter leur système. Donc, la question de contrôle d'argent est très importante. La responsabilité en matière de droit d'auteur est importante pour pouvoir contrôler les coûts et pour trouver de nouvelles débouchés. Nous pensons qu'il faut revoir l'approche à l'administration des sociétés de perception et qu'il y ait un paiement équitable pour l'utilisation de contenu. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup de nous avoir invités à ces consultations. Micro. Il est 2h30. Disons que nous allons nous arrêter à 15h. J'aurais quelques questions à poser pour commencer. Monsieur Knopf,
Je vous ai déjà entendu comparaître et ce que vous dites est toujours extrêmement valable. Monsieur Noss a aussi dit la même chose. Vous avez fait quelques suggestions et pour certains groupes qui ne sont pas ici et qui sont ici, ce serait inacceptable dans les négociations des droits d'auteur. Vos suggestions, est-ce que ça respecte nos obligations en vertu de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle? Chaque suggestion respecte les dispositions de l'OMPI et il n'y a pas de raison pour laquelle on ne peut pas ratifier le traité de l'OMPI. Est-ce qu'on veut l'OMPI plus le maximum et au-delà, comme certains l'ont demandé, ou est-ce qu'on veut le traité de l'OMPI qui pourrait aider le Canada? Ce que j'ai proposé n'a rien de contraire à ce qu'on trouve dans ce traité.
Je vous demande de regarder les transferts de format. On en a parlé plusieurs fois. Digital Arts, par exemple. D'après les dispositions que vous recommandez, ce genre de choses serait acceptable, n'est-ce pas? Les serrures numériques, vous y serez opposé. Et donc, le transfert de format, ça paraîtrait être un acquis. Le transfert de format est tout à fait légal aux États-Unis. C'est en fait le pays qui nous impose le plus de pression. Les Américains ont rendu cette pratique légale en 94 pour pouvoir ensuite nous dire « ne faites pas ce que nous avons fait ». La Cour suprême a d'ailleurs suggéré que nous avions raison. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Les serrures. Un certain nombre de personnes ici autour de la table qui provoquent moins de controverses que moi semblent dire que c'est acceptable. Et ça l'est selon les dispositions de l'OMP. On peut contourner tant que c'est pour de la reproduction légale. Dans l'OMP, on ne dit pas grand-chose sur ce qu'il faut faire en matière d'anti-contournement. Si quelqu'un contourne la loi et viole un droit d'auteur, il est coupable. De toute manière, ça devrait suffire. Si quelqu'un contourne la loi pour une contrefaçon au droit d'auteur, peut-être qu'il faudrait imposer une peine supplémentaire. Mais s'il y a contournement pour non-contrefaçon, c'est-à-dire une personne aveugle qui a besoin de contenu lisible, selon elle, je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir d'accusation et rien ne le suggère dans les dispositions de l'OMPI. Monsieur Noss, dans le même ordre d'idées, vous nous dites que vous avez de l'expérience au niveau international dans ce domaine. Moi, personnellement, j'ai assisté à de nombreuses réunions avec mes homologues américains et souvent, on nous taxe de délinquants de la propriété intellectuelle. Ils nous disent, vous les Canadiens, vous ne la protégez pas assez. D'après vos suggestions, la plupart des activités réalisées actuellement au Canada seraient légitimes, à l'exception de la piraterie de contenu téléchargé. On ne peut pas être des délinquants comme on le prétend. Absolument. Il y a certains points qui provoquent beaucoup de réactions émotives. Évidemment, il n'y a rien de mal, sauf ce qui est illégal. Ça, ce serait une bonne loi. Dans le processus d'ICANN, on s'est rendu compte que le lobby de la propriété intellectuelle est très proche des gouvernements. Je n'ai pas de compte à régler avec eux, ça fait partie de leurs objectifs. Mais nous, il faut qu'on sache que quand on renforce ces lois, on crée des emplois. Et pour qui? Généralement des avocats. Pas pour l'art ou la création artistique.
dans le procédure de d'ICANN, on s'est rendu compte à de nombreuses reprises que lorsqu'il y a quelque chose qui ne plaît pas aux responsables de la propriété intellectuelle, ils vont directement chez le gouvernement, au gouvernement. Et les plus gros lobbyistes canadiens sont en fait une extension des plus gros lobbies américains de détenteurs. Je savais bien qu'ils allaient vous menacer, je sais qu'on va essayer de vous intimider, mais au bout du compte, lorsque vous devrez expliquer la situation derrière les usagers, vous serez du bon côté. Moi, je suis sur l'Internet depuis qu'il y a le premier furteur qui existe. Et il y a deux groupes maintenant dans le monde, ceux qui l'aiment, ceux qui en ont peur. Et en fin de compte, les détenteurs de droits, comme ceux qui sont les plus réticents au changement, sont aussi à ceux à qui vous rendrez service. Parce que ça les obligera à innover plutôt que de se reposer sur leur laurier. Monsieur Sears, qu'en pensez-vous de ceci? Vous nous avez dit que le transfert de format, vous n'avez pas de problème de transfert de format, n'est-ce pas, dans votre groupe? Ça va jusqu'où? Parce qu'évidemment, ça va plus loin que ce que j'entends dans l'industrie musicale. Beaucoup sont contre cette idée de permettre le transfert de format. Et Mme Wheeler ne l'est pas, et M. Pearl aussi en a parlé. Lorsqu'ils veulent un format qu'ils peuvent diffuser, ils sont obligés de payer des redevances supplémentaires. Ça, c'est un transfert de format. Quelle est la position de votre groupe? Et si peut-être que vous êtes d'accord avec M. Noss, je voudrais savoir ce que vous en pensez. C'est une discussion intéressante parce que j'entends différents points de vue. J'entends des mots comme fardeau, d'autres comme juste et équitable. D'entrée de jeu, il faut savoir qu'à l'intérieur de l'industrie musicale, il y a divers groupes. Il y a d'une part ceux qui représentent des multinationales et qui dit qu'ils veulent poursuivre leurs clients en justice, ce n'est pas quelque chose qu'on appuie et ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. Alors qualifier toute l'industrie de la musique canadienne comme étant des égoïstes, ce serait injuste. J'écoute le point de vue de M. Noss, qui parle de cartel de droit. Je ne sais pas trop de qui il parle, parce que je vois autour de cette table des sociétés. Je ne vois pas de cartel. Même si nous représentons des artistes comme Bruce Coburn ou Bryan Adams, la majorité des artistes que nous représentons sont des musiciens et des artistes qui ne gagnent pas des 1000 et des 100. Nous sommes loin d'être un cartel. Ce qu'on souhaite, c'est protéger le contenu. Et même si on ne peut pas vivre dans le passé, je suis obligée de revenir en arrière. Dans les années 60 au Canada, notre industrie musicale était très marginale. Elle ne possédait aucune infrastructure. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons maintenant une bonne infrastructure, c'est grâce à la réglementation du contenu à la radio. Et croyez-moi, lorsqu'il y a des gens autour de la table qui prétendent qu'ils veulent travailler avec les artistes, ce n'était pas le cas de la radio à cette époque-là. Au contraire, ils étaient fermement opposés. Ils redoutaient de disparaître et pourtant ils continuent d'engranger des bénéfices. Mais la loi sur le contenu canadien a permis à notre industrie de continuer à croître. Et beaucoup d'artistes bénéficient de contributions versées par Rogers. Par exemple, beaucoup d'artistes n'auraient pas pu survivre s'ils n'avaient pas obtenu ces sources de revenus. Nous ne sommes pas des policiers. Ce n'est pas ce rôle qui nous intéresse. Beaucoup semblent oublier que l'on doit revenir aux fournisseurs de contenu. Nous permettons à ces artistes de vivre de survivre. Pour l'essentiel d'entre eux, ce n'est pas une façon de s'enrichir. Donc, nous sommes d'accord avec la copie personnelle, privée. Mais ce qui nous choque, c'est quand les gens partagent des fichiers. Nous n'allons pas les poursuivre l'un à la fois, mais nous avons besoin d'être protégés pour pouvoir continuer à stimuler l'innovation. Si les artistes n'ont plus les moyens de survivre, c'en est fini de l'innovation. Nous avons un énorme territoire, mais une petite population. En matière de vente de musique, nous sommes les 6e dans le monde. Et pour pouvoir survivre, nous sommes obligés de vendre les œuvres à l'extérieur du Canada. Ça nous permet de voir comment ça se passe ailleurs, mais et aussi de savoir que les autres artistes envient parfois les Canadiens parce qu'ils sont soutenus par le gouvernement. Beaucoup de nos collègues à l'échelle internationale voient cependant le Canada comme étant un pays du tiers-monde en matière de droits d'auteur. Je l'ai entendu, ce n'est pas moi qui l'ai utilisé. Je l'ai entendu et je me demandais si c'était vrai. Pour revenir à la partie apte à la radiodiffusion, c'est un argument que j'ai entendu très souvent. On paye beaucoup de redevances pour pouvoir transférer le contenu sous un format différent. Avez-vous une position là-dessus, sur le transfert d'un format à l'autre, notamment apte à la télédiffusion? Nous représentons des artistes. Nous ne sommes pas une maison de disques. Donc pour nous, le problème est moindre. Ça ne nous concerne pas vraiment. Ok, c'est bien. C'est bien parce que je voudrais savoir si vous aviez une position. Si vous en avez une, je voulais la connaître. Sinon, ce n'est pas grave. Non, moi, je n'ai rien contre. Mais lorsque j'ai commencé dans ma carrière il y a 20 ans, les choses étaient bien plus simples. Et donc, il fallait se préoccuper de savoir si le groupe allait arriver à l'heure, s'il allait jouer. Et ensuite, il était payé. Aujourd'hui, je suis obligée de me préoccuper de la vidéo de l'artiste. La situation est extrêmement complexe aujourd'hui. Je comprends que pour vous, c'est important de réduire votre fardeau administratif. Moi aussi, ça m'arrangerait. Mais quelqu'un a parlé des droits voisins. Et ça, c'est un droit que ne versent pas les Américains. Alors que nous, on les verse. Il y a toute une série de droits à payer. C'est une réalité. Elle est complexe. Mais il faut se souvenir que la raison de toute cette complexité, c'est quelque chose qui se ramène à une seule personne. C'est la personne, l'autre, qui a créé ce contenu. Et donc, il faut ne jamais perdre de vue cet élément. Monsieur Clark, vous avez parlé des droits de revente. Vous avez dit que le projet de loi C-61 pourrait régler la question des droits de revente. Et c'est une question qui m'alarme un petit peu. Car j'en redoute ses répercussions. Pouvez-vous m'expliquer comment cette situation fonctionne ailleurs? Je vais vous donner un exemple tout simple. J'étais propriétaire de biens immobiliers, je les ai vendus. Mes acheteurs les ont ensuite revendus, en ont fait un beau bénéfice et je n'ai jamais eu droit à quoi que ce soit. Et c'était car lorsque je vendais mon droit, on considérait que j'avais obtenu une valeur marchande suffisante, équitable, qui était ensuite transférée à quelqu'un d'autre. La valeur avait changé, ils en ont profité. S'ils perdaient, ça ne me concernait plus. Je n'étais obligée ni de partager les bénéfices, ni de partager les pertes. Comment pouvez-vous m'expliquer, comment ça fonctionnerait? Vous avez proposé une bonne comparaison. L'exception s'adresserait à ce type de contenu parce que Les artistes dans le reste du monde ne gagnent pas grand-chose et ça ne surprendra personne. Le revenu moyen d'un artiste visuel au Canada est d'environ 13 000 $ par an pour son art visuel. Je prends l'exemple du Royaume-Uni et avant de venir à cette audience, j'ai étudié le cas de la Société de gestion de droits collectifs au Royaume-Uni. Et je crois que leurs statistiques les plus récentes indiquaient qu'ils avaient obtenu 10 millions de livres, environ 20 millions de dollars pour 1600 artistes depuis 2006. La communauté européenne a donc accordé une certaine exception à la propriété culturelle ou intellectuelle en reconnaissant que les artistes n'arrivent pas à vivre de la propriété intellectuelle de leur art. Il y a quelque chose qu'on m'a dit, et ça intéressera peut-être M. Kubasi, excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom, j'ai entendu à propos des expositions qu'on peut déposer de l'argent dans une machine à côté d'une œuvre d'art. On appuie sur un bouton et on peut en obtenir une reproduction. C'est une façon de générer des recettes pour les musées. Et il y a des gens à qui j'ai parlé, sur la colline parlementaire entre autres, notamment des œuvres d'art qui sont la propriété du gouvernement du Canada. Il paraît que ça se fait. Est-ce que votre groupe appuierait ce genre d'initiative en supposant bien sûr qu'on partage ces recettes? Monsieur Abbas, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne occasion pour votre groupe de percevoir des recettes supplémentaires? Vous parlez tout précisément de quoi? Des imprimantes? Oui, ce sont comme des distributeurs de copies imprimées. Bon, je ne vois pas comment ça pourrait générer énormément d'argent pour la société, une société de droit visuel. Je n'en ai jamais entendu parler. Peut-être que Robert aura quelque chose à dire. Oui, c'est comme le magasin à la Galerie d'art de l'Ontario. Sur demande, on prend un catalogue, il y a des images et des photos et on peut commander une photo ou la photo d'une œuvre et la payer. À mon avis, il faut regarder quel est le type d'œuvre vendue sous cette façon. En général, ce sont plutôt des antiquités, pas tellement des œuvres contemporaires. Mais si on imagine une situation à plus grande échelle, c'est-à-dire des droits perpétuels, et je crois que quand on parle de droits de revente, justement, on parle d'un droit perpétuel ou un droit sur un legs. Je me demande ce que ça aurait comme effet sur les musées. Et je parle surtout de collections qui sont la propriété de l'État. Elles ont été bien sûr achetées par auprès de créateurs. Et je me demande comment on aborderait une telle situation. Bon, la succession a des droits pendant 50 ans et après ça s'arrête. Dans les Premières Nations, quelqu'un a avancé l'idée que ce genre de droit de protection perpétuelle pourrait être avantageuse, mais elle n'existe pas encore dans la version actuelle de la loi sur le droit d'auteur. J'ai des réserves à émettre si on se lance dans ce genre de choses. C'est que on applique un modèle commercial à un secteur qui devrait être un secteur à but non lucratif, c'est-à-dire du domaine public, pour l'intérêt du public. Les institutions publiques ont fait beaucoup d'efforts pour générer des recettes supplémentaires après ces dernières récessions ou crises économiques qui les ont forcés à trouver de nouvelles sources de revenus, surtout pendant les années 90. Les membres de mon association ont fait preuve de beaucoup d'imagination quand il a fallu remplacer des recettes qui s'étaient épuisées. Mais leur demander donc d'aller plus loin, d'aller plus vite dans ce sens, c'est problématique parce qu'on remet en question le mandat fondamental de ces organisations, c'est-à-dire l'intérêt du public. Je voudrais vous poser une autre question dans le même ordre d'idées. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Comment imaginez-vous les protections dont vous nous avez parlé? Je ne sais pas trop, en tant que Canadien, comment puis-je protéger quelque chose qui est fondamentalement canadien sur la scène internationale? Comment est-ce que je peux empêcher la reproduction de quelque chose de canadien si je n'arrive pas à l'attribuer à un auteur en particulier? Je ne dis pas que votre position ne se tient pas. Je pose simplement la question de savoir comment est-ce qu'on peut exercer ce droit. Est-ce que l'Association des Premières Nations a réfléchi à la possibilité d'avoir des droits qu'on n'arrive pas à attribuer à un créateur en particulier? Nous travaillons avec le comité intergouvernemental de l'OMPI et on a travaillé sur le folklore et le savoir traditionnel. Voici la façon dont nous avons vu la situation. Il faudrait créer une instance internationale. Comme on l'a déjà mentionné, il n'existe aujourd'hui aucune protection pour les Premières Nations en ce qui concerne leur expression culturelle, les chants, les contes, etc. On peut facilement les copier. Et on donne les droits à une personne, pas à une communauté. Et ça aussi, c'est problématique. Il y a eu des tentatives de contrats. On a essayé de signer des contrats avec des collectivités autochtones afin de pouvoir se servir de leur expression ou de leur savoir. Mais nous nous sommes rendus compte que ça n'empêchait personne de violer ce contrat, d'aller dans un pays étranger, de copier cette expression culturelle ou même de déposer un brevet là-bas. Le contenu culturel ne protège pas le savoir et l'expression culturelle traditionnelle des autochtones. Et pour cette raison, nous recommandons la création d'un cadre juridique international qui nous protégerait. Dans certains pays du tiers-monde, il y a un certain intérêt qui a été suscité, notamment en Afrique. On espère qu'on signera des traités bilatéraux avec ces pays-là. Mais compte tenu de l'existence des peuples autochtones au Canada et pour protéger et respecter notre culture, le Canada doit réagir. Le caractère canadien, l'unité du Canada, ce sont des arguments importants. J'ai hâte de recevoir vos suggestions sur ces points parce que je veux mieux comprendre comment ça fonctionnerait. Peut-être que M. Knopf a quelques réactions. Peut-être que vous pouvez nous donner l'angle juridique. Oui, je peux vous donner des commentaires écrits après la réunion. Monsieur Knopf? Non, j'ai cru que vous l'aviez levé la main. Je voudrais simplement vous donner une meilleure réponse à la question de tout à l'heure. Vous m'avez posé la question de savoir ce qu'il en était du transfert de format. L'affaire dont j'ai parlé, 1984, c'est l'affaire Séné, qui portait sur le transfert chronologique. Mais pour ce qui est du transfert de format, il y a quelques années, il y a eu l'affaire Rockster à la Cour suprême des États-Unis et j'ai travaillé sur un mémoire. Monsieur Brilley, le fameux avocat de l'industrie de l'enregistrement américaine, c'est-à-dire l'homologue de Quia, a déclaré à la Cour suprême que lui, il ne voyait pas de mal à ce que l'on transfère des CD sur un iPod, si on en est le propriétaire. Monsieur Heisen a dit la même chose au Canada. Donc, ce que je propose, c'est tout à fait cohérent par rapport à leur position. Et je suis un peu stupéfait d'avoir hésité quand vous m'avez posé la question, comment est-ce possible qu'il y a des gens qui pensent que c'est inacceptable? Il y a des gens qui me disent « ça c'est volé ». Écoutez, les groupes qui risquent de s'y opposer semblent dire que c'est tout à fait acceptable. Donc, l'IRWA est l'association Queer au Canada. Parfois, il faut savoir que je joue l'avocat du diable. Et je vous transmets simplement des commentaires que j'entends. Ce ne sont pas mes opinions personnelles. Mais je sais que j'ai entendu ça. Personnellement, pour certains groupes, c'est totalement inacceptable et je peux vous dire que ça les scandalise. C'est dommage parce que ce sont des suggestions tout à fait viables et ça vous permettrait de faire adopter ce projet de loi. Monsieur Fang, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir le point de vue de Kent West sur les PVR. Je pense que ça semble être une évolution naturelle dans l'industrie de la diffusion. On a parlé brièvement donc d'un frais d'une redevance de diffusion de portail. Je voudrais savoir ce qui m'inquiète dans l'industrie de la télédiffusion, c'est qu'il faut penser à son avenir à long terme. Si on ne se sert pas des nouvelles technologies, plutôt que d'essayer de faire de l'argent sur les anciens modèles, il faut regarder les nouveaux modèles et donc ces systèmes d'enregistrement privé, PVR, semblent être une excellente occasion pour les télédiffuseurs. Ça peut être du contenu, du nouveau contenu qui peut être vu et revu. Il y aurait une portée plus vaste, c'est-à-dire que les gens pourraient voir leurs émissions au moment où ça les arrange. Et souvent dans la télédiffusion, c'est ça le problème. Une fois qu'une émission est diffusée, on ne peut plus la voir, alors que quand on l'enregistre, le temps ne s'arrête plus. Ces PVR semblent représenter un nouveau modèle. Je voudrais savoir ce qu'en pense Ken West. Qu'est-ce que vous pensez de ces systèmes d'enregistrement? C'est en fait une excellente question. Je crois d'ailleurs que sous l'angle de la réglementation, les gens dans notre société, justement, travaillent sur ces modèles, voir comment on peut s'en servir, c'est-à-dire la télé sur demande. C'est plus ou moins ce dont vous parlez. Mais on parle aussi du point de vue du client à la maison avec son appareil d'enregistrement. C'est une question qui concerne surtout les consommateurs. Pour le mieux, pour le pire, ces dernières années, c'est ce à quoi les gens se sont habitués. Ils sont assis devant leur appareil, ils enregistrent les émissions et les regardent quand ça les arrange. La question qui se pose donc, c'est que si on essaye de recommander un changement dans ce domaine, c'est-à-dire de le contrôler, les consommateurs seraient furieux. C'est comme les différentes grilles horaires flexibles, les gens s'y sont habitués. Donc, ce serait, si vous voulez, un aspect d'une réforme plus globale. Et quand je parle de global, je crois qu'il faut tenir compte d'autres aspects, comme l'a dit Madame Wheeler, c'est-à-dire la reproduction ad hoc. C'est comme un diffuseur à la télé ou à la radio qui utilise des processus techniques pour pouvoir diffuser du contenu. Et on ne gagne rien quand on est obligé de transférer ces formats. C'est donc un usage accessoire, secondaire. Et donc, si on traite ces aspects comme la question des PVR, peut-être qu'on serait ouvert à cette idée pour nous donner donc une exception sous l'angle de la reproduction. Il faudrait imaginer un système global. Bon, ces PVR de réseau, c'est encore une occasion pour les diffuseurs d'obtenir des ressources supplémentaires. On parle du fait que, bon, la télévision traditionnelle ne rapporte plus autant. C'est vrai. Nous voyons les choses un petit peu différemment que les autres radiodiffuseurs et le câble. Mais nous voyons ça comme l'avenir multiplateforme pour le contenu télévisé. Il s'agit de trouver de nouvelles façons de faire affaire et de moderniser notre contenu. La vidéo sur demande, les PVR, par exemple, sont des outils nécessaires car ils ne disparaîtront pas. Il vaut mieux les accepter que d'essayer de s'y opposer ou d'ériger des obstacles. Je voudrais simplement donner un dernier commentaire sur l'affaire de Monsieur Henderson, le juge Henderson qui aurait appuyé le transfert de format. C'est un petit peu surprenant parce que la VLA, c'est-à-dire la société de gestion collective que représente Monsieur Henderson, a déposé une demande de redevance qui ferait que les diffuseurs de radio devraient payer 56 millions de dollars par an pour la reproduction. C'est plus que ce qu'on paye actuellement pour les droits d'exécution et de communication. C'est donc assez surprenant de voir qu'il y a là une contradiction.
J'ai rencontré M. Henderson et les autres à ce sujet, donc je serais intéressée de voir ça. Je pense que son point de vue serait un peu différent, mais enfin, je ne peux pas parler pour lui. Monsieur McTaggart, donc les FSI en tant que policiers qui s'occuperaient d'appliquer la loi, est-ce que c'est comme M. Norris l'a dit? Non, je vais corriger. Non, on ne veut pas passer. Donc, ça nous empêche d'aller du troisième monde au premier monde parce que pour la marge, la bande large, nous sommes dans le troisième monde. Donc, est-ce que en tant que policier des droits de propriété intellectuelle, est-ce que ça va décourager les investissements dans l'industrie? Je ne serais pas d'accord avec M. Noss en ce qui concerne l'industrie, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais lui envoyer quelques renseignements qu'il trouvera certainement fort utiles. En ce qui concerne le rôle des FSI dans la cause du tarif 22, la Cour suprême a dit qu'en tant que fournisseur d'accès, les FSI ne sont pas responsables pour les consommateurs, ils ne sont pas responsables en matière de droit d'auteur. Ce principe a bien aidé au Canada et chaque fois qu'il y a un nouveau coût administratif rajouté qui ôte l'argent aux ressources productives, ça nous empêche d'innover. Les FSI se trouvent au milieu de beaucoup de problèmes. Beaucoup de groupes aimeraient que les FSI soient responsables pour leurs problèmes ou leurs inquiétudes et ils aimeraient qu'ils résoudent le problème. Il y a certains détenteurs de droits qui veulent imposer les revenus des services Internet pour financer le contenu audiovisuel, ce qui serait à l'encontre de la conclusion de la Cour suprême qui disait que les FSI sont des conduits et rien d'autre. Mais en ce qui concerne des politiques de réponse, eh bien, on demanderait aux FSI d'agir sans justification juridique. Et les FSI ne peuvent pas faire ça s'il n'y a pas de décision d'un tribunal. Le grand public est vraiment contre le fait que les FSI s'ingèrent dans leur contenu et espionner les usagers de l'Internet, surtout si c'est pour des partis qui ne veulent pas se défendre devant les tribunaux. C'est la situation. Merci. J'aimerais vous donner la possibilité de faire un commentaire ou préciser quelque chose et ensuite on va terminer. Suite à votre question au sujet du PVR de réseau, si on veut monétariser ça,
on serait contre des mesures qui pourraient contrevenir les modèles actuels de revenus. Avec le PVR, si vous enregistrez ça, il n'y aurait pas de publicité nécessairement. De nos jours, on mesure les cotes, il y a des systèmes de mesure de cotes. Et je ne sais pas si vraiment, si on est à la fine pointe, mais je pense que bientôt, on pourra mesurer les visionnements PVR. Et si c'est fiable, c'est des cotes qu'on pourrait vendre pour des fins de publicité. C'est peut-être pas encore aujourd'hui, pour aujourd'hui, mais ça s'en vient. Je n'ai pas mentionné ça dans mes commentaires. Il y a un nouveau livre écrit par un de nos amis, William Patry, un avocat pour Google, mais il a écrit ça lui-même et ça s'appelle Moral Panics. Moral Panics, et vous pouvez l'acheter et ça touche beaucoup de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Ça revient au début de la pression, ensuite les pianos, etc. Et que il y a des industries de collectivité, c'est presque des cartels. Ils essayent de aller à l'encontre de l'innovation. Mais tout à coup, ils se rendent compte que ça les aide et ensuite, ils gagnent beaucoup d'argent. On voit ça en ce moment. Les groupes qui disent être dans l'intérêt des créateurs ou disent être pour l'innovation essayent de arrêter ça parce qu'ils essayent de préserver et de sauver un modèle d'affaires moribond. Je vous encourage de lire ça parce que vous savez que sans connaître l'histoire, on est condamné à la répéter. On a vu ça avec les magnétophones. Jack Valenti voulait que ce soit illégal. Il a dit que c'était comme le Boston Strangler pour une femme seule. Et s'il avait eu gain de cause, probablement que l'industrie du cinéma aurait dépéri. Et il y a eu une prospérité à cause des avances techniques qu'il a essayé d'arrêter. Et on a vu que nos parents avaient la difficulté. Mon magnétoscope, on voyait qu'il était minuit pendant 5 ans. Victoria Owen de l'Association ontarienne de la bibliothèque. Les autres tables rondes dans ce processus de consultation semblent appuyer un bon système d'utilisation équitable. Et ça, c'est presque tous les groupes qui appuient ce principe. Donc, il faudrait s'assurer que ce ne soit pas sapé par une nouvelle loi sur les droits d'auteur. Et voilà. Je pense que c'est quelque chose de très positif. Une confirmation, une entente sur l'utilisation équitable. Monsieur Nance, vous vendez beaucoup de services Internet. Est-ce que il n'y a pas des réponses à cette loi? Est-ce que vous pensez que les gens vont aller dans différents pays où certaines clauses ne sont pas désuètes? Nous avons des serveurs au Delaware parce que nous avons des Américains qui ont des données chez nous. Alors, est-ce qu'il y aura des commerces qui vont disparaître parce que c'est très difficile de contrôler ces frontières? On voit déjà ce magasinage de forums pour les juridictions. Il y a un centre de données pour les Américains qui se trouvent au Canada. Si vous Enfin, si vous êtes américain, vous voulez que ce soit sur place parce que vous devez être en conformité. Et on voit aussi les gens qui vont acheter se promènent pour choisir différentes juridictions. Et les noms de domaines, ça, c'est au centre des services Internet. Il faut que ça existe pour qu'il y ait un service. Et là, on voit des abus. Et c'est honteux. Et j'aimerais pouvoir dire, peut-être que je suis un peu endurci, mais j'aimerais dire que ce ne sont pas les détenteurs de droits qui n'abusent pas le plus, mais je devrais faire remarquer que les lois canadiennes des droits d'auteur telles quelles, pas aussi strictes qu'ailleurs, sont une protection pour nous comme compagnie et pour les Canadiens pour pouvoir parler librement le fait que nous sommes ici et que les noms de domaine sont ici. Autre commentaire. Merci, Stuart Wackett, Assemblée des Premières Nations. Comme je l'ai dit, il y a certaines lacunes dans la loi actuelle qui ne protègent pas la propriété intellectuelle des Premières Nations. On encourage le gouvernement à se pencher là-dessus et rajouter certaines clauses dans cette nouvelle loi pour combler ces carences, ces lacunes. J'aimerais remercier Graham l'importance du contenu culturel sur beaucoup de ces réseaux. Beaucoup de collègues ici représentent des sociétés qui voudraient pas payer des redevances pour permettre au contenu culturel à continuer. On a parlé d'un fardeau non nécessaire, mais je pense que les gens veulent avoir un accès à un contenu culturel. Et je pense qu'il y a quand même une valeur à ça. Je veux le dire clairement, je suis en faveur de l'argent des contribuables pour les industries culturelles. Mais je pense que le fournisseur du service ne devrait pas être le percepteur. On parle de prolifération de tarifs et le fait qu'il y ait une liste de tarifs, et même s'il n'y a pas une nouvelle valeur ajoutée à ces nouveaux tarifs. Et en tant que distributeur de musique numérique, c'est ce qu'on rencontre. On est un des plus grands et c'est peu connu. Et si vous achetez un CD dans un magasin, il n'y a pas de tarif rajouté à cet acte. Mais si vous l'achetez en ligne et vous le téléchargez, il y a un tarif qui est rajouté. Un pour l'instant, mais il y en a d'autres qui aimeraient rajouter d'autres tarifs. Donc, on se trouve dans une situation où les distributeurs d'un contenu légitime qui essayent d'encourager la vente de contenu doivent rajouter au prix de vente au détail pour payer pour le tarif quand il n'y a pas une nouvelle valeur à ça. C'est simplement livrer le fichier au client. Est-ce qu'on appelle ça une taxe de livraison numérique? Mais c'est un problème, et c'est un problème technique. Et résoudre ça, c'est difficile. Ça revient à la disponibilité d'un produit en vertu du traité de l'OMPI. À moins qu'il y ait une autre intervention, je vais terminer la séance. Je suis très fière de Peterborough. Je suis d'origine et j'en suis très fière. Et vous pouvez aller voir nos écluses et aller visiter la ville. Je pense que la discussion d'aujourd'hui a été très intéressante. Merci de nous avoir communiqué votre point de vue et je pense que vous nous avez donné beaucoup de matière à réflexion. C'est très important qu'on tient compte de tous les points de vue et bien entendu, cette loi va être très complète et on aimerait avoir une loi canadienne dont on pourrait être très fier. Merci beaucoup. Merci de votre participation.